La nuit des 500 ans du Havre se poursuit sur France Culture, en compagnie de Jean-Baptiste Gastine, historien et entre autres premier adjoint au maire, de Dominique Rouet, directeur des bibliothèques municipales, et de Annette Audiquet, conservatrice du MUMA, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Annette Audiquet.
Bonsoir Alban Penaroba.
Les 500 ans du Havre ont donné lieu à des festivités, manifestations, expositions, à de multiples initiatives. Mais à part les expositions « Le Havre, un rêve de la Renaissance » aux archives municipales et « Être mécène à l'aube de la Renaissance » à l'abbaye de Graville, qui s'achèveront dans une semaine, on peut tout de même remarquer que peu de place a été faite au premier siècle de l'histoire de la ville. Comment l'expliquer, Jean-Baptiste Gastine ?
Non, je ne crois pas. Je crois que l'exposition qui... a été inauguré et qui a été présenté tout l'été aux archives municipales du Havre, est très belle, qu'elle fait toute sa part au XVIe siècle, qu'elle présente des choses qui n'ont jamais été présentées au Havre, que les archives municipales l'ont préparée depuis longtemps et ont fait un très beau travail. Je ne crois pas que l'histoire soit ignorée. L'exposition « Quand le vent soufflera » fait la part belle, elle aussi, au XVIe siècle. Donc à ce Havre de la Renaissance... Et à ce Havre qui est présenté comme un rêve de la Renaissance, c'est-à-dire une promesse finalement. Le Havre, c'est une promesse, c'est un pari sur l'avenir. Et c'est intéressant et amusant de présenter aussi les choses comme ça. Ce pari, d'une certaine façon, il a été réussi. Cette promesse, d'une certaine façon aussi, elle a été tenue. Et 500 ans après, on se retrouve, c'est vrai, d'abord pour fêter le présent, c'est-à-dire pour se retrouver... Nous, la grande famille des Havrais est partagée entre Havrais et en ouvrant bien sûr à tous les autres qui voudront nous rejoindre des grands moments festifs et populaires comme on en a connu. Et puis aussi, on est tourné vers l'avenir parce que ce rêve, il doit se poursuivre. Cette destinée, elle est encore pleine de promesses. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Le Havre est devenu le premier port du commerce extérieur de la France. Dans un contexte international où la mondialisation des échanges est présente, où l'avenir économique est tourné vers la mer, l'idée que le Havre a un destin, que le Havre a un rôle important dans l'économie française, c'est quelque chose qui compte. Et donc c'est vrai qu'on est tourné pas tellement vers le passé, mais vers ce qu'on est aujourd'hui, ça dépend de ce qu'on a été hier, et aussi vers l'avenir. On avait cette intention... de saisir cette opportunité des 500 ans pour fêter aussi le présent et pour montrer que cette ville avait un bel avenir devant elle.
Pour évoquer l'époque qui a vu naître le Havre il y a 500 ans, on peut peut-être parler de quelqu'un qui fut havrais sans le savoir, puisqu'il meurt au moment même de la fondation de la ville, et qui a été quelqu'un d'important dans la France de la Renaissance, l'amiral Louis Mallet de Graville, mécène et bibliophile, Dominique Rouet.
Oui, c'est un personnage important qui est lié au Havre sans le savoir, peut-être. Vous le rappelez, il est mort en 1516, donc il n'a pas connu le Havre. Mais le Havre se construit sur ses terres, puisqu'il est seigneur de Graville. C'est un amiral de France. Alors, un amiral de France, à l'époque, ça n'a rien à voir avec un amiral de France aujourd'hui. C'est un haut fonctionnaire, un officier de la couronne, dont le champ d'action... se déroule sur, s'étend sur les côtes normandes et picardes et dans le ressort du Parlement de Paris. Il y a d'autres amiraux à l'époque, en Bretagne, en Guyenne, en Provence. Mais voilà, celui-ci est un proche du pouvoir. Depuis Louis XI, il a servi les rois de France et il a côtoyé Charles VIII, Louis XII, qui sont eux-mêmes des rois bibliophiles et mécènes. Et être un grand officier de la couronne à cette époque-là et se faire bien voir du souverain, peut passer aussi en adoptant, soit par goût, soit par envie de se faire bien voir, des réflexes qui sont princiers. Et avoir une riche bibliothèque, être mécène, commander des manuscrits enluminés, on en recense au moins une trentaine lui ayant appartenu. C'est un acte pour affirmer sa puissance et son statut dans l'entourage du roi. Et la Bibliothèque nationale de France a exceptionnellement... prêté au musée de l'abbaye de Graville plus d'une dizaine de ces manuscrits qui sont absolument somptueux. Et on voit que cet homme de la fin du XVe siècle est encore attaché à ces manuscrits de tradition médiévale, plus qu'à des livres imprimés. Il fait travailler des peintres, il fait réaliser des ouvrages la thématique politique, historique, mais dans la grande tradition des manuscrits enluminés. Et on ne trouve pas, en tout cas dans l'exposition, de livres incunables qui représentent finalement la nouveauté dans l'art du livre. C'est vraiment une figure qui est liée au Havre parce que le Havre s'est développé sur ses terres, mais qui n'aura pas connu sa construction. Par contre, il y a fort à parier que, ayant été proche de François Ier, il a indirectement participé à l'idée de la nécessité d'un nouveau port, précisément à cet endroit-là de la Seine.
Si la ville du Havre est riche de son architecture moderne, de son centre-ville classé, on le rappelle, au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville compte assez peu de monuments anciens remarquables et les bombardements de 1944 n'en sont pas les uniques responsables. Déjà, les guides touristiques édités au XIXe siècle révèlent ce manque. On trouve pourtant trace des siècles précédents à travers quelques édifices. Au premier rang d'entre eux, Notre-Dame du Havre, cathédrale depuis 1974. Peut-on dire, Jean-Baptiste Gastine, qu'à elle seule, Notre-Dame raconte l'histoire du Havre ?
Oui, on peut dire ça, même s'il y a d'autres édifices intéressants et anciens. L'abbaye de Graville, par exemple, le Havre s'étant agrandi, a fini par englober l'abbaye de Graville. Mais l'église Notre-Dame, elle est sous forme de chapelle, pratiquement créée au moment où le Havre est fondé. Elle est agrandie dans les années 1530 parce que la population commence à grandir et c'est Guillaume de Marseille qui nous signale que son père était trésorier et que l'église s'agrandit parce qu'on a besoin d'un édifice plus grand. Elle est surtout lancée dans son architecture d'aujourd'hui et dans sa dimension actuelle, cette église, dans un contexte effrayant parce qu'on est en 1575 et c'est le contexte qui suit la Saint-Barthélemy. Vous connaissez tous le massacre parisien, plusieurs milliers de protestants sont massacrés, mais les Saint-Barthélemy provinciales sont moins connues. Ce sont des répliques sismiques de la Saint-Barthélemy parisienne. Et ces répliques, elles suivent comme une onde terrifiante la vallée de la Seine. À Rouen, en septembre, le capitaine de la ville protège les protestants en les mettant en prison et en fermant les portes de la prison. Mais les catholiques forcent les portes et massacrent environ 500 protestants. Imaginez la frayeur des protestants havrais quand ils apprennent le massacre de Paris suivi du massacre rouennais. Et ils se convertissent en masse pour échapper à une telle destinée tragique. Ils font rebaptiser leurs enfants dans les deux églises du Havre, Saint-François et essentiellement dans l'église Notre-Dame. Et donc, 3 ans après, au Havre, on pense qu'il est possible de réunir tous les habitants dans la même foi. Et c'est dans cet élan catholique qu'est lancé le chantier de la construction de l'église Notre-Dame, avec une participation financière de chaque Havrais, soit volontaire, soit un peu imposée, et avec des taxes qui sont prélevées sur le commerce, avec des taxes qui sont prélevées sur ceux qui ne respectent pas les règlements municipaux. Bref, il y a tout un mécanisme financier qui va permettre à ce chantier de se dérouler et d'être à peu près achevé au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle. Donc un chantier de longue haleine, mais qui est lancé dans cet élan qui suit la Saint-Barthélemy.
Et il y a aussi l'église Saint-François, l'hôtel particulier du corsaire du Bocage de Bléville, et une bâtisse singulière et passionnante, la Maison de l'Armateur. Cette maison nous raconte l'histoire du Havre du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Située à l'entrée du port, elle était celle d'un certain Martin-Pierre Fouache. Qui était-il et qui était la famille Fouache et que représente cette Maison de l'Armateur, Dominique Rouet ?
Juste avant les Fouaches, il y a un autre propriétaire de cette maison. C'est un architecte et un fontanier de la ville, Paul-Michel Thibault. C'est lui qui fait construire cette maison, qui est sans équivalent actuellement au Havre. Elle est remarquable par son puits de lumière qui va éclairer cinq niveaux de maison. Mais effectivement, il ne va pas y rester longtemps et la famille Fouache et Martin-Pierre Fouache va acheter cette maison en 1799. Fouache, c'est un représentant de ces négociants, de ces armateurs qui ont pratiqué le commerce triangulaire au Havre et qui se sont largement enrichis et qui occupent dans l'organisation de la ville, des places éminentes, puisque il est secrétaire, il achète un office de secrétaire du roi en 1784, il est échevin. Son frère Stanislas est également engagé dans le commerce colonial de l'époque. Voilà, c'est un représentant de ces Havrais qui font fortune, qui le montrent, qui ont des maisons dans la ville, mais qui se font construire aussi des maisons sur ce qu'on appelle la côte, c'est-à-dire le coteau, le contrefort de la vallée de la Seine qui domine la ville et qui domine la baie. Et d'ailleurs, c'était une manière à la fois d'avoir une maison de plaisance à l'extérieur de la ville, mais de voir de loin arriver les navires qui rentraient au port. Donc ça avait un double avantage. En tout cas, cette maison aujourd'hui, elle représente cet aspect de la ville et de l'histoire de la ville du XVIIIe siècle, ou de la toute fin du XVIIIe siècle. Elle montre à la fois une sorte de prouesse architecturale, parce que c'est vraiment un lieu qu'il faut voir. Pour comprendre plus aisément comment il s'organise. Ce sont des petites pièces qui tournent tout autour du puits de lumière et à travers lesquelles, aujourd'hui, l'on peut découvrir comment on vivait, dans quel cadre, au milieu de quels ornements, quels meubles et quelles pièces d'objets d'art un armateur de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle vivait au Havre.
Pour en revenir au commerce triangulaire, on évoque le plus souvent Nantes, La Rochelle et Bordeaux, en oubliant le Havre. Que représente la traite négrière dans l'économie havraise du XVIIIe et du début du XIXe siècle, Jean-Baptiste Gastine?
Oui, le Havre comme port négrier est beaucoup moins connu que Nantes, que Bordeaux, que La Rochelle même, ou Saint-Malo. Et ça s'explique peut-être justement par l'absence ou la quasi-absence de traces de ce passé au Havre, du fait de bombardements de 1944. La maison de l'armateur est peut-être une des seules à conserver dans l'espace public la mémoire de ce commerce extrêmement rentable. Pourtant, le Havre, au XVIIIe siècle, qui est la période la mieux connue du commerce triangulaire, est très loin de Nantes, bien sûr, mais au niveau de Bordeaux, c'est-à-dire en nombre d'armements, Bordeaux et Le Havre, c'est 12-13% des armements français au XVIIIe siècle. Au Havre, c'est d'abord des compagnies à privilèges qui organisent la traite des Noirs. Et les négociants havrais viennent plus tard, mais s'y mettent d'abord avec quelques précurseurs, dont la famille Fouache, qui est une des premières à se lancer dans ce commerce-là. Le commerce triangulaire est toujours complémentaire du commerce colonial en droiture. C'est toujours moins de 10% des armements, s'agissant d'armements transatlantiques. Mais ils sont indispensables parce que sans la main-d'œuvre servile dans les îles françaises d'Amérique, on ne cultiverait pas, bien sûr, les produits qu'on rapporte et qu'on rapporte au Havre pour ensuite être redistribués en France et dans toute l'Europe. Tous les Havrais s'y sont mis, enfin je veux dire par là, les catholiques, les protestants, les francs-maçons. Et au Havre, il n'y a aucune famille d'armateurs, de négociants, qui manifeste au XVIIIe siècle une sorte de réflexion ou d'hésitation, de trouble ou d'accusation, ou qui mettent en accusation même ce trafic-là. Il fait partie vraiment du trafic, du commerce havrais, et tout le monde y participe. Les négociants, bien sûr, les armateurs, mais les artisans, les petits commerçants aussi, ils vendent des pacotilles, ils confient au capitaine des navires des pacotilles qui sont ensuite échangées en Afrique contre des esclaves. Et les Havrais vont avoir beaucoup de mal à renoncer à ce commerce-là.
Oui, puisque ça va se poursuivre quand même assez longtemps au XIXe siècle, si on pense au cas de Jules Mazurier, par exemple.
Oui, absolument. La traite en France est interdite en 1817. L'esclavage est interdit en 1848, mais la traite est interdite en France dès 1817. Et pourtant, quelques dizaines d'armements vont continuer à être faits à partir du Havre de manière totalement illégale.
Au XIXe siècle, le Havre, la ville, le port changent complètement de visage avec des transformations qui vont accompagner et favoriser un essor économique, commercial et démographique sans précédent. Quels sont les bouleversements urbains et portuaires du XIXe et quels horizons nouveaux offre-t-il alors au Havre, Jean-Baptiste Gastine?
Le XIXe siècle est un siècle on dirait aujourd'hui, d'explosion urbaine. C'est-à-dire la ville a été contenue pendant les trois premiers siècles dans un espace très contraint, très restreint, celui des fortifications comme l'a dit Dominique précédemment, la citadelle a longtemps empêché tout élargissement du Havre en direction de l'Est, qui était la seule direction véritable pour une extension urbaine. Mais tout cela saute en deux temps. D'abord, à la veille de la Révolution, les murailles sont détruites, mais on en reconstruit à peu près 500 mètres plus large. Donc la ville peut s'agrandir, elle peut respirer dans un premier temps. Et ces murailles qui entourent le Havre seront définitivement détruites au milieu du 19e siècle pour permettre à la ville de s'agrandir et pour permettre aussi l'arrivée du chemin de fer, la ligne Paris-Le Havre étant la première ligne complète de Paris jusqu'aux frontières du royaume à être inaugurée. Donc on est en 1847.
Et en un siècle, donc, la population havraise est multipliée par 6. D'où viennent ces nouveaux Havrais ? Qui sont-ils et comment s'intègrent-ils à la ville ?
Oui, cette explosion urbaine, elle est démographique. Effectivement, 17 000 habitants peut-être en 1815, 120 000 habitants ou 130 000 habitants à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est une des croissances démographiques les plus spectaculaires en France. On ne retrouve de chiffres comparables que dans les villes industrielles, les villes champignons qui poussent souvent au pied des mines du nord de la France ou dans d'autres départements français. Et cette explosion urbaine est liée évidemment au port et au trafic portuaire qui se développe énormément, aux liaisons qui vont se développer avec l'Angleterre, avec les États-Unis d'Amérique, et aussi à l'industrialisation au Havre. Jusque-là, le Havre était une ville qui n'était pas très industrialisée. On y construisait des navires, on y faisait de la réparation navale, mais il n'y avait pas beaucoup d'autres industries. Il n'y avait pas d'industrie textile, par exemple. Il y avait une manufacture de tabac. Il y avait quelques sucreries, mais pas beaucoup. Et donc l'industrie, la grande aventure industrielle du Havre, débute au XIXe siècle et entraîne des besoins de main-d'œuvre qui sont considérables. Le bassin démographique qui alimente le Havre s'élargit aux dimensions de ses besoins. Et donc la Seine-Maritime, bien sûr, continue à fournir beaucoup de Havrais. Mais c'est à cette époque-là qu'on va chercher de plus en plus loin de l'autre côté de l'eau, dans ce qui correspond à la Basse-Normandie et surtout à la Bretagne. Et donc la grande épopée des Bretons du Havre, en fait, elle n'est pas du siècle de François Ier, mais elle est du XIXe siècle.
Le Havre est donc une grande ville qui épouse son temps, un grand théâtre, le chemin de fer, un lycée, le lycée François Ier. La ville devient une station balnéaire avec les bains Frascati. Et au milieu du siècle, la conquête de l'océan prend une nouvelle dimension avec la création de la Compagnie Générale Transatlantique et l'ouverture des liaisons régulières entre le Havre et l'Amérique. En 1845, à Nettaudiquet, on inaugure un musée des Beaux-Arts au Havre. À quelle demande répondait la création de ce musée et qu'est-ce qu'on y voyait alors ?
Alors peut-être ce qui caractérise le musée du Havre, c'est qu'il est créé sur volonté politique. Il n'y a pas d'existence, alors peut-être oui, des manuscrits, une collection d'histoire naturelle, mais il n'y a pas de collection d'histoire de l'art, de beaux-arts tout simplement, qui justifie, comme c'est bien souvent le cas dans les villes de province, en dehors des grands musées nationaux qui vont être créés donc à partir de 1801. Donc on n'est pas dans ce cas de figure au Havre. Donc c'est vraiment une vraie volonté. Et je dirais que la concomitance de la création des bains Frascati, du théâtre, la création de la Société des Amis des Arts, la création d'une bourse pour aider les artistes, tout ça donc entre les années 1840, 1850, montre qu'il y a vraiment une volonté de donner à cette ville une autre envergure, une envergure touristique, dirions-nous. La mode des bains de mer a quelques décennies, mise à la mode dans les années 1820. Et la création des stations balnéaires sur la côte de Basse-Normandie va commencer vraiment dans les années 1855-1860. Et donc le Havre est vraiment en fait coincé, je dirais, entre Dieppe, une belle station touristique, balnéaire, et puis ce potentiel sur plus au sud. Et donc il y a cette volonté de créer un musée. Alors ce qui est original, c'est que on va profiter en fait dans ce réseau urbain qui est encore très très serré. En fait, on va profiter de la démolition de l'ancien hôtel de ville du logis du roi en 1850. 1842 pour demander à l'architecte de la ville, Brunet de Benne, de construire un musée. Et à bien y regarder, je crois que nous sommes le premier musée normand à être construit, parce que si Rouen, l'acte de création du musée de Rouen date de 1801, je crois que les bâtiments ne sont construits que dans les années 1870 ou 1880. Le musée donc va être première posée en 1842 et le musée ouvre en 1845. Alors il est donc sur le Grand Quai. Et ce qui fait cette originalité majeure, je crois qu'en fait c'est le seul musée en France construit à cette époque au plein cœur en fait économique de la ville. Et la façade même du musée va montrer ce lien très très fort, organique en fait, avec le commerce, puisque les sculptures qui sont en façade, eh bien on retrouve de manière classique la peinture, la sculpture, l'histoire, la science, mais on a aussi les figures du commerce et de la navigation qui trône sur un édicule et qui encadre une horloge nouveauté éclairée grâce au gaz. Alors en 1845, c'est vraiment une espèce de coquille vide qui s'ouvre puisque les collections n'existent pas et il va y avoir une espèce de... alors on va courir, bien entendu, faire sa cour auprès de l'État pour faire venir des œuvres, des dépôts de l'État. Mais il va y avoir aussi les premières acquisitions, les premiers legs. Alors tout ça donc est un peu balbutiant et il faut considérer aussi l'histoire du musée parallèlement à celle de la Société des Amis des Arts. C'est-à-dire que la Société des Amis des Arts, qui se crée en 1839, c'est-à-dire en fait juste avant le musée, va être vraiment la grande pourvoyeuse d'œuvres contemporaines qui vont pouvoir en fait rentrer dans les collections du musée. Et c'est ainsi que quelques belles œuvres du 19e siècle sont rentrées grâce à cette Société des Amis des Arts.
Et les fortunes havraises d'alors s'investissent-elles dans la peinture, dans la sculpture? Est-ce qu'on achète, commande, collectionne des œuvres d'art?
Oui, on collectionne, on commande, on achète à de jeunes artistes. Boudin va avoir ses premiers collectionneurs sont havrais, vont lui acheter des natures mortes, vont commander des natures mortes, puisque Boudin est quand même essentiellement connu pour être un peintre de paysages. Donc en fait, ces collectionneurs se retrouvent effectivement parmi ces grands négociants. Alors je dirais que pendant les premières décennies après 1850, on va plutôt collectionner l'école de Barbizon. Il y a quand même de grands collectionneurs comme Gaudibert qui va être l'un des mécènes de Monet. Mais c'est vrai que c'est plutôt en fait à la fin du 19e siècle qu'on trouve une autre génération de collectionneurs havrais, grands négociants, qui eux vont vraiment collectionner les avant-gardes et qui vont se regrouper donc dans une société dissidente, pourrait-on dire, de la Société des Amis des Arts, qui s'appelle le Cercle de l'Art Moderne, qui est créé en 1906 mais qui a une existence éphémère de 4 années. Donc en fait, on a une espèce de bouillon de culture, de collectionneurs, une grande présence de collectionneurs avisés, tout particulièrement sur la fin du 19e siècle, début du 20e.
Le livre, la lecture occupe aujourd'hui une place importante au Havre. Les Havrais disposent de plusieurs bibliothèques, notamment la bibliothèque Armand Salacrou et la bibliothèque Niemeyer. Mais déjà, Dominique Rouet, au tout début du 19e siècle, existait la bibliothèque municipale et aussi un réseau de bibliothèques populaires et de cabinets de lecture.
Oui, Annette parlait de la genèse du Musée des Beaux-Arts en rappelant que finalement... Le Havre avait fait plus rapidement que Rouen. C'est la même chose pour les bibliothèques, puisque la bibliothèque municipale ouvre le 21 avril 1800. C'est la première du département à ouvrir. Alors classiquement, c'est une bibliothèque dont les fonds proviennent de confiscations révolutionnaires réalisées dans la pointe ouest du département. En particulier l'abbaye de Fécamp, l'abbaye du Valas, mais aussi d'autres couvents à vrai. Donc les livres qui sont réunis d'abord à Rouen, puis ensuite à Montivilliers, puis ensuite au Havre, puisqu'au départ, la bibliothèque devait ouvrir dans le chef-lieu de district. Or, le chef-lieu de district, c'est pas le Havre, c'est la ville médiévale beaucoup plus ancienne donc que le Havre, Montivilliers, qui aurait dû accueillir la bibliothèque. Mais les Havrais ont réussi à démontrer que naturellement, il fallait l'ouvrir là où il avait une population beaucoup plus importante. Donc en 1800, les livres qui sont réunis là, finalement, n'intéressent peu les lecteurs, puisque des manuels ou des sommes théologiques ne sont pas tout à fait ce qu'il fallait pour un public d'armateurs, de marins ou de jeunes scientifiques à former. Donc toute la politique de la ville a été au cours du 19e siècle d'étoffer cette bibliothèque, de la diversifier et d'y mettre finalement des collections qui allaient être utiles à une ville portuaire, à une ville commerçante. Et puis elle s'est installée dans le prétoire. C'est aujourd'hui le Muséum d'histoire naturelle, donc un bâtiment du 18e siècle, jusqu'à ce que la ville construise un musée des beaux-arts. Et comme il était souvent de coutume à cette époque-là, musée et bibliothèque ont coexisté dans le même bâtiment qui effectivement était ce bâtiment à l'entrée du port, finalement le premier grand bâtiment imposant que la ville offrait au regard des voyageurs qui arrivaient par la mer. Donc une bibliothèque qui sans arrêt s'est trouvée trop à l'étroit. Après l'épisode du musée-bibliothèque, elle a ensuite déménagé en 1904 au lycée de Garçon. Et c'est cette bibliothèque-là que Queneau, Salacrou, Sartre ont connue. Mais des livres, il n'y en a pas que dans les bibliothèques au Havre au XIXe siècle. Annette évoquait les collectionneurs des beaux-arts, mais d'autres fortunes ont, elles, investi dans le livre. Il faut se souvenir que, étant une ville de création récente, le Havre n'a jamais cultivé énormément les humanités, ou en tout cas c'est une ville où il n'y a pas d'université, pas d'évêché, pas de grosse abbaye qui aurait pu drainer ou former une élite intellectuelle. C'est plutôt une ville où on a cultivé la culture scientifique et technique, et cela dès le XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, ça se ressent encore. Donc les premières bibliothèques importantes de collectionneurs au XIXe siècle ne sont pas forcément des bibliothèques de bibliophiles, mais des bibliothèques de curieux, de scientifiques. Donc des bibliothèques qui sont le reflet des occupations d'un certain nombre de Havrais, en tout cas de ceux qui peuvent investir, si ce n'est dans les beaux-arts, en tout cas dans les livres. Progressivement, vous l'avez rappelé, des cabinets de lecture qui ne sont pas donc gérés par la ville s'ouvrent. Et parmi ceux-là, il y en a un qui est créé par un certain Joseph Morland, qui est un personnage très intéressant et que l'on retrouve au Havre au milieu du 19e siècle et jusqu'en 1861. Ça n'est pas un Havrais, c'est quelqu'un qui vient s'installer là, qui est un peu un touche-à-tout. Mais entre autres choses, il est éditeur, il est imprimeur, il est créateur du premier cabinet de lecture, il va devenir historien du Havre, conservateur des archives, et puis conservateur de la bibliothèque également. Et c'est un de ceux qui ont véritablement fait changer la physionomie des collections qui étaient mises à la disposition des Havrais, en tout cas dans la bibliothèque municipale. C'est aussi celui qui travaille avec d'autres à l'établissement de sociétés savantes. À partir des années 1833, c'est la création de la Société Havraise d'études diverses. On est vraiment à une période où l'élite intellectuelle et marchande s'organise pour se doter de structures telles que cette société savante.
Il y a les écrivains havrais du XXe siècle, et avant Salacrou et Queneau, Bernardin de Saint-Pierre et Casimir de la Vigne. Sous la plume de Chateaubriand, Stendhal, Balzac et Maupassant, et de bien d'autres après eux, on trouve de nombreuses évocations du Havre dans la littérature. Mais ce Havre du XIXe siècle, c'est tout de même la peinture et la photographie qui l'auront représenté. Commençons peut-être par la photographie, puisque le Havre est une ville de photographes qui ont laissé un riche témoignage de ce qu'était la ville et son port, Dominique Rouet.
Il y a effectivement des photographes professionnels qui viennent s'installer au Havre, non loin de ce qui sera le Musée des Beaux-Arts, et en particulier sur la jetée nord. La jetée nord, c'est l'ouverture du port, c'est ce que tous les touristes, finalement, qui viennent au Havre, viennent découvrir parce que on y voit le va-et-vient des bateaux, on y voit des clairs de lune magnifiques, des couchers de soleil également. Et ces premiers photographes choisissent cet endroit parce qu'ils sont proches des choses à photographier, mais aussi sur les lieux où converge un éventuel public qui va leur acheter ces photographies. Alors la photographie au Havre, elle apparaît dès 1839. Il y a les premières expériences de daguerréotypie qui sont réalisées face au bassin du commerce dans le théâtre, le grand théâtre. Il y a surtout quelques photographes qui sont des frères Macaire qui viennent s'installer en 1850 au Havre sur la Jetée et qui vont réaliser des daguerréotypes assez saisissants parce que pour la première fois on arrive à fixer sur une plaque de métal l'image vraie de la mer en mouvement, d'un bateau qui avance avec le vent dans ses voiles, et c'est la première fois que l'on arrive à fixer l'image de la réalité. Donc il faut se mettre à la place des gens qui ont vu ces images-là pour la première fois et qui ont compris et vu à quel point la vision des peintres et la vision de ces premiers photographes n'étaient pas tout à fait la même, puisque les peintres exagéraient naturellement sur leur toile ce qui était la réalité. Donc ces daguerréotypes-là ont fait sensation, ont été présentés à l'Académie des sciences, mais les Macaire ont voulu garder jalousement le secret qui leur permettait donc de réduire considérablement le temps de pose et de pouvoir capter le mouvement sur leur photographie. Alors qu'on est à une époque où les photographes échangent, les procédés font avancer les techniques, les Macaire, eux, sont un peu en retrait et veulent rester maîtres de leur invention, si bien qu'ils n'ont peut-être pas eu la destinée nationale qu'ils auraient pu avoir. Néanmoins, ils font quand même fortune au Havre jusque à la fin des années 1860. Un des trois frères, qui d'ailleurs change de nom, qui s'appelle Jean-Victor Varnaud, lui est appelé à de meilleures affaires au Havre, à une époque où d'autres photographes qui viennent de Paris, et Gustave Legret et de ceux-là, viennent également voir ces paysages de côte normande et cette agitation dans le port. Et il se trouve que Legret vient en 1856, et c'est peut-être au Havre qu'il réalise des photos qui le rendent célèbre et en tout cas qui le font exister à travers des expositions qui ont lieu à Londres ou à Paris et où son nom vraiment sort du lot parmi ces photographes du milieu du XIXe siècle.
Ce Havre du XIXe siècle, la ville, le port, Annette Audiquet, quelle représentation la peinture nous en a-t-elle donné, qu'elle soit celle des peintres majeurs ou de moindre importance ?
J'ai envie de dire que les plus grands sont passés au Havre. Donc c'est vrai qu'ils jettent voilà une espèce d'ombre sur les peintres mineurs. On prend le chemin de la Normandie dès les années 1820-1830 et on va avoir donc tous les représentants de l'école de 1830 en fait qui vont passer, que ce soit au Havre, que ce soit de l'autre côté de l'eau, donc à Honfleur. Des artistes tels que Corot viennent au Havre. Et puis c'est vrai que on pense plutôt à partir des années 1850 à tous ces artistes que l'on va retrouver donc autour de Boudin, autour de Monet, autour de Courbet, à la ferme Saint-Siméon, en face du Havre. Et tous viennent au Havre représenter le Havre. Et c'est vrai que l'on a des œuvres extrêmement sensibles, telles celles de... Alors, on pourrait peut-être citer avant tout Turner, puisque Turner donc est présent depuis quelques jours au MUMA, grâce à un prêt exceptionnel de la Tate Gallery. Turner est peut-être le premier à donner cette vision moderne, d'un port moderne. Turner vient dès 1824. Il va revenir à plusieurs reprises, mais dans son sillage, ce seront des artistes tels que Yonkin, qui va être aussi, lui, un maître absolument extraordinaire de l'aquarelle, qui va venir au Havre, qui va côtoyer Monet, côtoyer Boudin, aller sur cette plage du Havre et de Sainte-Adresse. Ce sont des artistes qui bougent. Le chemin de fer est arrivé et permet justement ces voyages. Alors, quand on pense au Havre, on pense bien bien entendu à Monet, on pense bien entendu à Boudin. Donc ces artistes qui vont donner ces représentations, surtout pour Monet, célébrissime du Havre. Je dirais que Monet, c'est à la fois les années 1860, Monet jeune, qui va représenter donc cet aspect balnéaire de la ville. Il va regarder toujours du côté de Sainte-Adresse, du côté des régates, du côté de la mer en furie. Et puis à son retour de son séjour en fait forcé à Londres au moment de la guerre avec la Prusse, revenant en France, revenant au Havre, eh bien c'est un autre aspect de cette ville qui va l'attirer, plutôt cette ville industrielle, ce port en pleine en pleine action, en plein mouvement, et à sa suite d'autres viendront, et on peut mettre bien entendu en parallèle l'un de ses amis, Camille Pissarro, qui en 1903 viendra passer le dernier été de sa vie au Havre. Il va s'installer lui aussi dans un hôtel, comme Turner avant lui, comme Monet avant lui, s'installer donc sur le Grand Quai, l'un de ces nombreux hôtels ou de ces meublés qui existaient sur le Grand Quai, et il va donc à la veille de transformer que s'apprête encore à connaître le port du Havre, représenter donc ce port à tous les moments, je dirais, à la fois de la journée, dans tous les états atmosphériques. Voilà, on pense effectivement à ces artistes pour le 19e siècle, et puis le 19e siècle et le début du 20e, puisque Pissarro, c'est 1903, et bien exactement au même moment, les artistes de la génération suivante, ceux qui sont nés vers les années 1870 et qui ont pour nom Dufy, Friese, Braque, peignent aussi au Havre, je dirais, attirent leurs amis, en particulier Albert Marquet, qui viendra en 1906 peindre côte à côte avec Dufy, donc et donner de cette ville une toute autre représentation. En tous les cas, on n'est plus dans des recherches atmosphériques, mais on est vraiment dans des recherches plastiques sur la couleur. Et c'est vrai que cette ville, elle est connue dans le monde entier par des œuvres absolument extraordinaires, œuvres pré-impressionnistes, impressionnistes, fauves, et puis quelques très belles aussi photographies comme Dominique le soulignait.
Ce samedi donc a débuté au Havre, au MUMA, l'exposition Impression Soleil. Pour la première fois, l'œuvre de Monet Impression Soleil Levant revient sur les lieux qui ont inspiré l'artiste. Comment avez-vous conçu, imaginé cette exposition qui accueille le tableau de Monet, Annette Audiquet, 5 peintres, un photographe et un vidéaste?
Oui, alors d'abord, l'événement est quand même extraordinaire. Monet a peint cette œuvre en 1872. C'est cette œuvre qui a été exposée à la première exposition en 1874 de ce que l'on appelle maintenant le groupe des impressionnistes. Et c'est la première fois, donc depuis sa création, donc 145 ans après, que cette œuvre revient au musée. Donc on est sur quelque chose d'absolument exceptionnel. J'aime quand même à souligner que Monet est déjà présent au musée, et je dirais grâce à lui en premier lieu, puisque Monet, de son vivant en 1910, a donné 3 œuvres et des œuvres importantes à la ville du Havre. Et ce musée s'est enrichi ensuite grâce à ses collectionneurs, et puis une acquisition importante dans les années 90. Donc nous avons 6 œuvres de Monet. Donc Monet revient chez lui, et à la fois donc il n'est pas le seul à avoir peint cette ville. Si l'on peut dire qu'il y a 2 sujets dans Impression Soleil Levant, le port, et puis à la fois cette impression de soleil levant, eh bien nous avons tout simplement réuni autour de cette œuvre symbolique, d'autres œuvres. Alors Turner, qui le premier donc est venu au Havre, que Monet a découvert quand il est à Londres, et qui va le marquer profondément. Turner, Le Gray, donc cet autre photographe dont Dominique a parlé, Boudin qui emmène Dufy, qui emmène pardon Monet peindre à Rouel, peindre sur le motif, Félix Vallotton, un artiste suisse qui va passer presque 20 ans de ses étés dans l'estuaire de la Seine, alors plus du côté de Honfleur, mais il sera aussi présent au Havre et qui va faire une série de soleil couchant absolument sublime. Et puis Dufy, Dufy qui lui aussi donc eh bien je dirais comme Monet, comme Boudin, est particulièrement lié à cette ville. Et le dénominateur commun entre toutes ces œuvres, une trentaine qui sont réunies donc depuis ce matin, ouvertes au public depuis ce matin, eh bien c'est qu'elles représentent le Havre. Et comment représentent-elles le Havre? Est-ce que le sujet importe? Est-ce que les artistes se détachent? Est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que voilà, enfin comment est-ce qu'on représente cette ville? Quel point de vue on choisit aussi sur cette ville, côté industriel, côté naturel, et puis elles ont comme toutes comme autre point commun et bien de représenter le soleil se couchant ou le soleil se levant. Et ce que l'on essaye d'explorer dans cette exposition, c'est voilà comment s'y prend-on pour représenter un moment particulièrement aussi fugace que celui-ci, et comment fait un artiste pour restituer en fait une émotion.
Le Havre du XIXe siècle, prospère, moderne, ouvert sur le monde plus que jamais, ouvert à la culture, aux arts, aux idées de son époque, peut-on dire, Jean-Baptiste Gastine, qu'il est l'aboutissement du rêve, du projet, du geste fondateur de François Ier.
Je suis pas sûr, parce que je pense que cette période extrêmement faste pour le Havre, qui est la fin du XIXe et le début du XXe, avec un dynamisme incroyable, et c'est ça aussi que viennent saisir les artistes, c'est sans doute le moment où le Havre est le plus indépendant par rapport à l'État. C'est sans doute le moment où l'entreprise privée prospère, où le dynamisme entraîne le dynamisme et où l'État intervient peut-être le moins. Alors c'est peut-être excessif ce que je dis, parce qu'une grande part de ce dynamisme est liée au commerce colonial et la colonisation est évidemment dépendante de l'État. Mais je crois quand même que c'est un moment où le dynamisme havrais est relativement indépendant des affaires de l'État. Alors, il sert l'État, bien sûr, mais cette période-là, cette période faste, cette période où l'entreprise privée va se développe et crée des fortunes, elle va être interrompue brutalement par la Seconde Guerre mondiale. Et que, à nouveau, le Havre va rentrer dans une forme de dépendance liée aux besoins de la reconstruction et à cette grande entreprise qui sera une entreprise ministérielle, celle de la reconstruction. Et on va voir s'installer des grands groupes qui sont souvent des groupes nationalisés. Donc je crois que cette période du 19e et du 20e correspond pour une bonne partie à une période de grande croissance urbaine et reposant sur l'initiative privée, sur l'entreprise privée, sur des négociants, des marchands, des industriels qui font la prospérité du Havre à ce moment-là et qui s'intéressent à l'art moderne, comme Annette vient de le souligner.
Annette Audiquet, Jean-Baptiste Gastine et Dominique Rouet, merci. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30, juste avant la fin de cette nuit des 500 ans du Havre. Et d'ici là, nous aurons écouté « La province et mon cœur », le Havre avec Armand Salacrou, par Claude Dupont et Jean Châtenay en 1960 sur la chaîne parisienne. Édition spéciale Frédéric Sauvage, vulgarisateur de l'hélice, par Marcel Thomas en 1960 pour Interactualité sur la RTF. France, le dernier des transatlantiques, un lieu de mémoire proposé par Jacques Munier en 1998. Et pour finir, Peinture en France, un musée, un chef-d'œuvre, le musée des beaux-arts André Malraux au Havre, Raoul Dufy, par François Léritz en 1978. La nuit des 500 ans du Havre se poursuit sur France Culture, en compagnie de Jean-Baptiste Gastine, Annette Audiquet et Dominique Rouet.